Yves Mézeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur d'un think tank Afrocentricity basé à Vienne. Vous êtes un ancien fonctionnaire de l'ONUDI. Cette semaine, le FMI est réuni en congrès à Washington. C'est un petit peu la grande réunion printanière. Est-ce que le FMI, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, est une institution toujours utile en 2015?
La réponse est oui. Encore faut-il qu'on précise pour quelle fonction. Pour ce qui est de la fonction de l'information économique et financière, le FMI est d'une très grande utilité puisque ça permet d'abord de faire le point sur les grandes théories économiques et leur application au niveau pratique pour les différents pays et surtout de faire les bilans si les gouvernances économiques ont été bien ou mal appliquées, ce qu'on appelle généralement la bonne ou la mauvaise gouvernance. Maintenant, sur le plan de tout ce qui est pronostic ou analyse du futur, voire conseil, les points de vue sont beaucoup plus partagés, voire même opposés, sur ce que le Fonds monétaire international a conseillé par le passé, notamment aux pays africains, mais pas seulement, et surtout les conséquences de ces politiques. Actuellement, on voit la Grèce, mais d'autres pays africains l'ont subi par le passé.
Le FMI a été très longtemps et très ouvertement critiqué en Afrique pour ses programmes d'ajustement structurel. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec certains pays, en tout cas, les relations sont plus apaisées. Au début du mois, un accord a été signé avec la Côte d'Ivoire pour un décaissement de 67 millions de dollars pour faciliter l'accès au crédit. Les relations sont-elles vraiment apaisées entre le FMI et les pays africains?
Alors, le mot apaisé est toujours très dangereux quand on parle de crédit et de risque. Parce que qu'est-ce que fait le Fonds monétaire international et pourquoi on y va d'ailleurs? On y va d'abord parce qu'on a des difficultés passagères de déficit budgétaire. C'est-à-dire que le budget de l'État, d'une manière ou d'une autre, n'est pas en équilibre. Et donc, du coup, on va chercher de l'argent auprès du Fonds monétaire international. Mais en réalité, il faut comprendre tout ce qui s'est passé en gros après la dernière crise financière de 2007-2008, c'est-à-dire que beaucoup de pays africains ont vu leur dette effacée et ensuite ont été plus résilients en termes de croissance économique. Et cette croissance économique autour de 5% continue, ce qui leur a donné une marge économique, une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Et du coup, cette marge de manœuvre a permis aussi de pouvoir emprunter auprès du Fonds monétaire international et de rembourser dans les délais plutôt courts, ce qui a évité la spirale qu'on avait avant, que j'appelle moi les programmes d'ajustement conjoncturel à répétition.
Aujourd'hui, le FMI fait face à la concurrence de l'État chinois qui agit comme une banque.
Bon, disons qu'on ne peut pas dire qu'une institution a une concurrence en tant que telle, mais on doit quand même accepter que les pays émergents, plus globalement, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud récemment, ont décidé de créer leur banque. Quand ça va être en opération d'ici 5 ans, ça peut devenir au moins une alternative, plutôt qu'une concurrence d'ailleurs, parce que les pays auront toujours le choix de choisir entre le FMI et d'autres structures dont celle dont on vient de parler. La réalité, c'est que on ne demande pas des conditionnalités sur les droits humains, par exemple, on ne demande pas des conditionnalités sur la démocratie. Donc un certain nombre de choses, entre guillemets, qui ne sont pas directement liées à l'économie et aux finances, qui fait que les pays africains auront tendance à se tourner beaucoup plus vers les facilités, soit multilatérales, comme on vient d'indiquer, avec la banque des pays du BRICS, comme on dit, ou carrément bilatérales vers la Chine, ou voire les pays arabes aussi d'ailleurs.
Et est-ce que ça amène à un rééquilibrage entre les pays du Nord et les pays du Sud, ou en tout cas les BRICS qui essayent aussi de s'imposer davantage sur la scène internationale et en Afrique?
Ce sont les pays occidentaux qui sont majoritaires, largement majoritaires, au conseil d'administration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui sont en train de se mordre la queue. Voici, vous l'avez dit au début d'ailleurs, des institutions qui ont été créées en 1944-45 et qui, à l'époque, pour la plupart des pays émergents, voire africains, étaient des colonies. Donc, on a gardé la même structure de rapport de force au sein de ces conseils d'administration, alors que vous connaissez aujourd'hui le poids, pour le prendre avec un exemple, la Chine. En créant ces banques, ça permet vraiment une respiration monétaire et financière. Du coup, on a une offre d'alternative, tout simplement. C'est bon pour l'économie mondiale, d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, ça pose un problème de fond sur le fondement éthique même de la théorie économique que le Fonds monétaire avait voulu imposer au monde. Un certain nombre de pays qui ont une marge économique, qui sont assez indépendants, je pense aux pays anglophones africains, vont de plus en plus se tourner vers d'autres alternatives, dont la Chine.
Merci beaucoup, monsieur Amezo.
Écoutez, c'est moi.